Cassis FM.
Bonjour Grégory Coupé.
Bonjour.
On est ravi de t'accueillir ici chez Cassis FM en studio. Je précise que cette interview, je la réalise avec Dimitri Coutan, qui est journaliste également chez Cassis FM. Salut Dimitri.
Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour Grégory.
Salut.
Grégory, on va parler de plein de choses dans cette interview. On va parler de l'actualité footballistique d'une manière générale. On va parler de ta carrière et puis de l'avenir proche également. L'avenir proche, c'est la reprise de la saison de Ligue 2 avec une échéance tant attendue. C'est ce lundi soir à 20h45 face à Sochaux au stade Gaston Gérard. Premier match de la saison. Dans quel état d'esprit tu es voilà, à l'approche de cette échéance? Tout d'abord, t'es pressé de reprendre la compétition?
Oui, parce que c'est vrai que quand on fait les préparations, c'est toujours un peu des rythmes un peu effrénés au niveau de l'entraînement. Donc là, c'est la compète. C'est vrai que ça nous manque, même s'il y a eu des matchs amicaux.
Ouais, il y a eu quelques matchs de préparation.
La compète, c'est autre chose. Et bon, bah, c'est vrai qu'en plus, au niveau des matchs amicaux, on n'a pas réussi, à se rassurer jusqu'à présent.
Ouais, il y a eu un match nul et
ouais. Puis on a Mickaël Le Vihan qui vient de se blesser en plus, donc voilà. Et bon, on sait que la saison va être longue, et que c'est vrai que ce match face à Sochaux à domicile est un match important.
Ouais, en plus avec du public, ce sera à domicile, ouais, et il y aura du public parce qu'on vient de vivre une année où il y avait
voilà, on parle déjà de la quatrième vague, hein, donc
ouais, malheureusement
c'est une catastrophe. Mais bon, je crois qu'il va falloir savoir s'adapter à tout ça, à ces conditions là aussi. Mais c'est vrai que rien que le dernier match amical face à Troyes où il y avait un petit peu de monde, tout de suite ça change quand même. C'est le foot, c'est fait pour créer des émotions et les vivre ensemble.
C'est là que le 12e homme, il nous avait manqué. Hein.
Ouais. C'est vrai qu'on a énormément souffert de ces conditions la saison dernière. C'était d'une tristesse ces matchs. Enfin bon ouais, c'est comme ça. C'était pour tout le monde pareil. Mais peut-être que quand on est un petit poussé comme nous en Ligue 1 l'année dernière, c'était encore plus. Plus pénalisant.
Ouais, évidemment. On va pas trop revenir sur la saison passée qui a été difficile, évidemment. On le sait, on en a déjà parlé. L'idée, c'est de parler du présent et de l'avenir. Le présent, c'est aussi le mercato, avec un effectif qui est profondément modifié cette année. Cet été, il y a le retour de Baptiste Reynet, notamment, qui est très connu ici à Dijon. Elle a déjà joué deux fois au DFCO. Toi, tu le connaissais moins. Comment s'est passé justement la prise de contact?
Je le connaissais quand même bien parce que ils étaient venus tous les gardiens aussi avec Bobby Alain qui était venu aussi à Lyon et donc je les avais accueillis à Lyon pour voir une séance.
Bobby Alain qui était gardien il y a 3-4 ans.
C'est ça, voilà. Donc il était venu avec Lolo Weber qui était l'entraîneur à l'époque, qui était un copain. Donc on avait passé une journée sur Lyon. Ils avaient vu la séance et après on est mangé ensemble. Donc on a eu l'occasion déjà de bien discuter. Et puis moi, Baptiste, ça s'est bien passé aussi. Bon, c'était un gardien aussi que je respectais en tant qu'adversaire. Donc oui, beaucoup de plaisir d'échanger toujours. Déjà, quoi qu'il arrive entre gardiens, c'est toujours des discussions passionnées souvent. Donc je connais bien Baptiste et c'est vrai que sa venue est très positive parce qu'on sent un vrai engouement positif autour de sa venue. Les gens sont contents de le revoir et quand on vient de passer une année aussi difficile que la nôtre la saison dernière. Ben voilà, c'est dès qu'on a du positif, on le prend.
Tu penses qu'il avait envie de redorer un petit peu le blason peut-être du DFCO après cette saison?
Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que quand on parle Dijon, bah tout de suite lui, ses yeux s'illuminent aussi, donc il était content d'avoir cette touche-là. Je pense qu'il avait envie de découvrir aussi les entraînements avec moi aussi, le nouveau centre aussi, ça change aussi beaucoup de choses parce que c'est vrai que le président nous a doté d'un centre d'entraînement qui est juste exceptionnel, donc. Je crois que c'est toutes des conditions qui vous donnent envie de tenter l'aventure.
Ouais. Avec toi, donc, il y a Baptiste René, on en a parlé. Saturnin Lagbé et Anthony Rassiopi également, qui étaient déjà là la saison précédente. Anthony, tu l'avais déjà connu à Lyon. L'année dernière, il a fait un bon début de saison. Alors, il est devenu titulaire dans le courant de la saison, à la place de Saturnin. Ça a été plus difficile après pour Anthony la fin de saison. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le parcours de ce gardien qui est jeune encore, il a 22 ans.
Moi je suis persuadé que c'est un vrai potentiel futur. Maintenant c'est vrai que il a démontré beaucoup de bonnes choses, mais il a aussi montré une irrégularité un peu dans les performances et un peu de pression au jeu au pied notamment. Donc je pense que justement, c'est pour lui, c'était une véritable découverte, un peu ce niveau d'exigence et le fait de remettre les couverts tous les week-ends. Quoi, c'est que il suffit pas de faire un bon match par-ci par-là. À partir du moment où tu prends le feu un peu, notamment à Lens, quand il fait une grosse erreur de relance, il a dû gérer ça aussi, découvrir ça derrière. Ça c'était plutôt pas trop mal passé. Puis il a eu à nouveau des doutes. Donc ça c'est toute une carrière de jeune gardien de but. Donc Il a appréhendé ça un peu sur le vif et ça a été un peu difficile quoi.
Ouais. Voilà pour ton effectif. Dimitri.
J'ai Thomas Roche. Ouais. Pardon. Pardon. Thomas Roche qui est gardien, quatrième gardien.
Pardon.
Aussi,
c'est vrai, on en a pas parlé.
En plus formé au club donc. Qui bosse super bien aussi, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, je veux pas qu'on l'oublie.
Ouais, et sur qui on pourrait compter dans le courant
en
de la saison.
En tout cas, il est très fiable.
Voilà, quatrième gardien, c'est vrai qu'on est
bien.
Un peu loin dans la hiérarchie.
Oui,
mais,
ouais. Ouais, bah c'est comme on dit, c'est des gardiens, on va dire plus d'entraînement pour le moment, mais qui est en train d'évoluer au fur et à mesure et très bien et qui est un vrai élément du groupe parce qu'il bosse super bien.
Entendu. Dimitri, une question.
Donc là, on va parler un petit peu plus de toi. Donc tu as
après
ta carrière.
Ah bah oui, fallait qu'on y vienne.
Désolé. Alors, donc tu as été dans les médias avant d'être entraîneur des gardiens aujourd'hui.
Ouais.
Est-ce que maintenant tu ambitionnes de devenir peut-être entraîneur principal d'une équipe? Est-ce que c'est un objectif que tu as à moyen terme?
Alors pas du tout, parce que déjà je l'ai vu notamment l'année dernière avec le coach David Linares qui passait la fin de ses examens là, pour être validé entraîneur professionnel. Et franchement, c'est trop dur.
Ouais,
ils en demandent trop. Moi, déjà, bon, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur de gardien de but.
Ouais.
Et j'ai la licence.
Que t'as eu en 2016.
Ouais, que j'ai eu encore il y a deux ans aussi avec la licence A, parce que là, maintenant, on peut
parce
avoir.
Que t'avais commencé en 2016 avec Lyon,
oui,
hein,
c'est ça, ouais. Et j'étais venu, d'ailleurs, notamment, on était venu en observation ici à Dijon. Donc, pour ça, j'ai eu quelques rapports déjà avec Dijon. Et puis, ouais, non, c'est comme des examens qui sont très difficiles. Ouais, franchement, c'est beaucoup d'informatique, beaucoup. Et franchement,
il y a un gap très important entre le poste d'entraîneur des gardiens et entraîneur principal, c'est très important.
Il y a vraiment des séquences très longues où l'année dernière, le coach, il partait de tous les mois, il partait au moins une semaine et c'est et puis avec tout ce qu'il vous demande à côté, mémoire de dingue. Enfin, c'est un investissement énorme, vraiment.
Et puis après il y a une pression derrière des fois aussi que
à force d'être entraîneur des gardiens, je vois aussi l'envers du décor et je vois ce que subit un coach numéro un aussi, la pression notamment des médias bien sûr, même si ici franchement elle est encore cool, mais après toutes les discussions avec le président, enfin bon, t'arrêtes pas de bosser quoi, c'est pour lâcher psychologiquement, c'est difficile.
D'ailleurs, tu parlais de David Linares, on l'a vu d'un point de vue plus tactique, il a tenté plusieurs systèmes la saison dernière, notamment une défense à 5 en fin de saison. Cette année, on est en Ligue 2, le Dijon est favori fait partie des favoris pour monter en Ligue 1. Est-ce qu'on va avoir un style de jeu se dégager au DFCO et plus largement, quel est le style de jeu de David Linares?
On aimerait. David Linares, moi j'ai joué avec lui à Lyon, et on a été champions ensemble, donc c'est déjà un ancien milieu de terrain. Donc c'est vrai que lui, il aimerait déjà qu'on ait la maîtrise au cœur du jeu. Ça c'est clair, ouais. Et puis après, il s'étonne encore des passes qui cassent nos lignes un peu trop facilement. Donc, il y a déjà une volonté avant tout d'être bien en place et par la suite essayer d'avoir la maîtrise du ballon. Maintenant, avec la Ligue 2, on va découvrir aussi ce que c'est, si ça peut être un jeu un peu plus direct.
Ouais.
On va déjà s'adapter tout ça. Nous aussi, on découvre aussi notre effectif parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup de changements. Donc, essayer de bien huiler tout ça et puis. Surtout quelque part créer une atmosphère où que les gens soient heureux de venir voir Dijon, que les joueurs se mettent le cul par terre, si je peux me permettre l'expression, mais qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, et puis derrière j'espère qu'on verra des beaux mouvements.
On va revenir dans un instant avec toi, Grégory, sur ta vie passée de footballeur avant Dijon, notamment que ta carrière à Lyon, ta longue carrière à Lyon. Il y a eu 11 ans en tout dans la capitale des Gaunes. Tout d'abord, un petit peu de musique. Tiens, écoute ça.
Ah, magnifique.
Ça te dit quelque chose, non?
Ben oui, magnifique.
Ouais. C'est Martin Garrix, Bono et The Edge, We Are The People. C'était l'hymne de l'Euro. On écoute tout de suite.
A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for.
heart that hurts is a heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Martin Garrix, Bono et The Edge, We Are The People, c'est toujours l'hymne de l'Euro 2020, Greg. Hein,
et puis c'est du Bono, c'est du bon Bono.
Tu es fan.
Ah, grave.
Ok, Grégory Coupé, on va parler, comme je le disais juste avant, la coupure musicale de ton passé. Tout d'abord pour revenir, enfin terminer un petit peu sur Dijon et ton travail au DFCO. Pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des grands spécialistes de football, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe, une séance d'entraînement pour les gardiens. Parce que les gens peuvent se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent à rattraper des ballons à chaque fois.
C'est vrai, mais bon.
Il y a un vrai travail
de coordination qui, main droite, main gauche, pied droit, pied gauche, comme tous les joueurs. Quelque part, c'est le poste le plus complet parce qu'il faut être capable de jouer avec les mains comme avec les pieds et puis de subir quelques frappes aussi et donc d'être costaud du haut comme du bas. Donc c'est des vrais athlètes à part entière et tout ça se prépare quoi. Après il y a le côté bien sûr psychologique où là c'est beaucoup de travail de discussion aussi. Après beaucoup de travail de précision dans les placements et tout ça. Plus la vidéo et puis voilà, tu vois, cet après-midi je repartirai faire une séance spécifique à un gardien, mais on va travailler plus sur le.
Ah, des fois tu fais des séances spécifiques avec un seul gardien.
Bah là on va faire plus un travail sur l'endurance, la capacité un peu à résister, et puis ça sera un peu avec des gants de boxe.
Donc sympa. Il y a un travail physique aussi, des séances de musculation.
Bien sûr. Déjà les gardiens courent autant que les joueurs à la reprise notamment. Je pars du principe que si le gardien il est bien physiquement, il est plus facile dans sa concentration. Donc pour être fort, il faut être très concentré. Pour être bien concentré, il faut être fort physiquement.
Ok. On poursuit à présent. On aura peut-être l'occasion de reparler. On reparlera de Dijon tout à l'heure, mais sous un autre angle. Tu verras.
D'accord.
Maintenant, partir à Lyon. Bon, une ville que tu connais bien.
Pas loin en plus.
Ouais, c'est pas très loin, moins de 2 heures de route à peu près. Voilà, quand ça roule bien. T'as passé 11 ans à l'Olympique Lyonnais de 1997 à 2008. C'est ça. Je me trompe pas. T'as vécu les 8 titres d'affilée, évidemment, dans les années 2000. On a préparé quelques petites surprises et quelques souvenirs de ces années-là, des faits de jeu marquants. Tout d'abord, écoute bien ça.
Attention, suivre le ballon aussi. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, main opposée, Richard.
Fabuleux. Tout simplement fabuleux.
Oh oui, Richard, regarde ça.
Tout simplement fabuleux.
Exceptionnel,
fabuleux. C'était quand ça?
C'est quand Saint-Etienne, il y a un super coup franc. Et commentaire de Flo Maurice avec Richard Benedetti aussi. Et je crois que ce qui fait le truc chouette, c'est comme il s'exclame Flo, quoi. C'est il la sort, et c'est vrai qu'elle est magnifique quand on voit au ralenti. Vraiment du bout des doigts. Et ça, c'est bien, là, je parle pour Thomas Roche, qui a tendance à pas être capable d'ouvrir cette épaule-là, de tirer sur les moignons, comme j'aime bien le dire. Et ben voilà, s'il voit ça, qu'il aille voir ça sur YouTube.
C'est-à-dire suivant ton expérience de
faire passer
comme ça pour les transmettre à tes gardiens.
Bien sûr, complètement. Mais quand en plus j'ai des images comme ça, ça parle, c'est tout à mon crédit, on va dire.
On a dû t'en parler plein de fois de
en plus c'est Saint-Etienne, donc c'est un derby. Et comme je viens en plus de Saint-Etienne, c'était des matchs où il fallait pas trop que je me rate, on va dire. Même si une fois je me suis bien raté. raté, mais bon, on n'a pas perdu, on n'a pas perdu, hein, donc c'était bien, j'étais du bon côté, on va dire.
Ouais, mais justement, c'est une question que je voulais te poser avant de passer au prochain épisode. Ces derbies, parce que t'as joué à Saint-Étienne aussi au milieu des années 2000.
J'étais formé 7 ans.
Ouais, 7 ans à Saint-Étienne, puis après 11 ans à Lyon, ça devait être des derbies, ça devait être très spéciaux pour toi de tous les derbies. Ouais.
C'est peu de
le dire. Premier, tu l'as vécu comment quand t'es arrivé à Lyon? Ça devait être très spécial.
Ouais, c'est très spécial, surtout que j'ai eu un accueil assez terrible des supporters stéphanois, qui avaient pas compris. Pourtant, pour eux, c'est simplement une trahison. En même temps, à ce moment-là, autant moi, j'étais content d'aller à Lyon parce que je restais dans mon objectif d'évoluer au plus haut niveau. Donc, c'était en Ligue 1 puisque Saint-Étienne était descendu. Mais c'était aussi l'occasion de sauver le club financièrement parce que Saint-Étienne était aux abois financièrement et ils ont été obligés de vendre notamment Will Sagnol aussi parce qu'on était les joueurs les plus bankable à l'époque.
Ouais. Alors, ce match, cet extrait dont qu'on vient d'entendre, c'était le 27 janvier 2008. Juste.
Oui, mais pour Antoinette, là, moi, les dates. Voilà. Franchement, c'est une grande chance.
Pour la petite anecdote. alors, c'était en première mi-temps, c'est ça, Dimitri?
Oui, c'est en première mi-temps.
Et deuxième mi-temps, par contre, là, il s'est passé ça.
Oula, bien joué, Sébastien.
Ah!
Crucifié! Crucifié.
C'est là,
alors là,
c'est
à la fois t'as pas de chance, hein.
Sogomis,
crucifié sur ce renvoi.
Ah ouais, mais
c'est terrible. Ben, depuis cette relance là, je dis à mes gardiens qu'il faut toujours repartir à l'opposé.
Ouais.
Non, mais c'est vrai que du coup je me sers aussi de ma propre expérience pour éviter mes gardiens de faire de telles erreurs. Même si quelque part techniquement l'idée est bonne parce que je vois Fabio Grosso qui est sur le côté. Bon, bah, c'est comme ça. Après c'est ça le football, hein, c'est que des fois on réussit pas toujours nos gestes. L'intention était bonne, mais
sur la tête de Gomis.
La réalisation technique était terrible.
C'était bien centré sur lui.
Cadeau. Là c'est cadeau.
Et on se souvient que Gomis d'ailleurs il était pas très médiatisé en 2007-2008 et puis il a été sélectionné à l'équipe de France.
Il me doit toute sa carrière.
Il a lancé.
Vous avez dû en parler plein de fois tous les deux quand vous êtes revus.
Ouais, gentiment quoi. C'était à sourire on va dire. Ouais. Mais vite fait quand même.
Il y a eu beaucoup de grands moments comme ça donc pendant le championnat de France, Coupe de France aussi, Coupe de la Ligue et puis en Ligue des Champions également. Un autre extrait, ça c'était un petit peu plus il y a plus longtemps, au début des années 2000. Écoute.
El balón que viene, ojo. El balón se va al travesaño, Rivaldo.
Commenté en espagnol.
Vaya mano, sigue el peligro, Rivaldo dentro del área, se revuelve el brasileño y corner. El error de la zaga. Ha tenido que recular el guardameta.
Ah, tu parles bien espagnol.
Écoute, c'était face à. Après, c'est surtout le fait que une passe en retrait mal assurée de Claudio qui me lobe en fait. Et c'est vrai que souvent les gens me disent mais pourquoi tu la prends pas la main? Je dis juste parce que j'ai pas le droit en fait et comme j'avais plutôt confiance en mon jeu de tête et que j'ai même jeté par terre donc je me suis dit ça va passer et en fait
réflexe il est incroyable.
C'est ça qui est le plus fort je crois, c'est de tomber sur le dos comme je le fais là et puis de repartir aussi vite vers l'avant quand je vois ça je me dis voilà le travail paye mais c'est beau aussi la jeunesse quoi parce que aujourd'hui je fais ça je pense qu'il faut aller chercher une grue pour me relever
C'était en 2001 précisément, c'était le 10 octobre 2001 du coup à l'époque
tu fais ça à Bernabéu et puis c'est vrai que c'est un arrêt qui revient chaque année dans les top arrêts et donc c'est un peu l'arrêt qui me fait connaître des jeunes quoi.
Ouais. C'est ça. Dimitri, une question.
Avec l'Olympique Lyonnais, donc t'as été plusieurs fois champion de France, t'as remporté la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, t'as participé à plusieurs épopées en Ligue des Champions. Et en équipe de France, t'étais dans le groupe de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2006, qui a été en finale avec la finale qu'on connaît.
Avec le final, malheureusement, oui.
Et, bref, tout ça pour dire que c'est quoi ton plus grand souvenir, tes plus grands souvenirs en tant que joueur?
Mais je pense que justement que le premier titre avec Lyon reste à part parce que c'est le premier. C'est le premier. Tu sais que, déjà, on savait pas qu'on allait gagner cette fois derrière, ce qui était important à ce moment-là, c'est que déjà, ça faisait plusieurs années où on finissait troisième, après on a fini deuxième. Les médias commençaient à nous traiter de poulies d'or, du football. Donc il y avait une énorme attente et c'est vrai que quelque part, ce titre, il joue sur un match. Mm. Puisque on courait après Lens et puis le dernier match, c'était Lyon-Lens. Donc tu joues une saison sur 90 minutes, ce qui est pas banal. Donc vous imaginez un peu la pression. Il y avait une énorme attente pour nous aussi puisque ça faisait deux années de suite qu'on finissait deuxième. Donc on va dire, pas le droit non plus de se tromper. Donc, mais ça a été un moment magique, magique. Ouais. Parce que une tension incroyable, dernier match à domicile, puis tu gagnes. Voilà, c'est un truc de fou. Et puis tu restes, quoi qu'il arrive, après Lyon, j'espère qu'ils en gagneront beaucoup d'autres. Mais le premier titre, j'en fais partie.
Émotionnellement.
Ouais. Donc ça, c'est chouette.
Souvenir fort, tu parles du stress entre guillemets qu'il y a eu et puis l'explosion à la fin. Enfin, il y a un petit peu des deux quoi.
Ce qui est fort, c'est qu'on n'a pas eu de doute. Et c'est vrai que je pense qu'on avait une équipe assez forte et collectivement surtout. Et on était dans un truc parce qu'on avait jusqu'à 10 points de retard face à Lens en janvier. Et puis je sais pas, ce match il était ancré. Je pense que c'est aussi un travail de Jean-Michel Aulas qui nous avait dit non, c'est pas 10 points, c'est vous enlevez 3 parce que vous allez battre à domicile Lens. Donc voilà, tu t'égrènes les points comme ça, tu grappilles, et puis voilà, la confiance arrive, quoi. C'est top.
Ouais. Tu as été ensuite entraîneur des gardiens à l'Olympique Lyonnais. Mmh. On en a déjà un petit peu parlé. Tu as quitté Lyon l'année dernière. Alors, le départ de Lyon, c'est pas très très bien passé. Je me souviens, j'avais assisté à ta conférence de presse de présentation. C'était il y a un an, tout juste début juillet 2020, quand t'es arrivé au DFCO. Tu nous avais expliqué que t'attendais des nouvelles de Jean-Michel Aulas, de Juninho pour éventuellement la suite de l'aventure à l'Olympique Lyonnais, que t'as envoyé des mails, t'as jamais eu de réponse, et que parallèlement on te proposait un poste à Dijon, et c'est pour ça que t'es venu à Dijon.
Ouais, voilà.
Voilà, ton départ de l'Olympique Lyonnais t'a laissé un goût assez amer. Est-ce que depuis t'as eu des nouvelles, t'as pu échanger? Non,
il y a eu un tweet de Jean-Michel Aulas qui expliquait que justement il y a des moments il faut savoir suivre son directeur sportif et que c'était le choix de Juninho. Donc j'ai remercié sur Twitter, je lui ai dit bah merci pour l'info parce qu'enfin ça il y a peut-être un ou deux mois donc
ils ont mis 10 mois à te répondre
pour rigoler et sur Twitter quoi, c'est
même pas directement
parce que
Jean-Michel Aulas est un grand utilisateur de Twitter
exactement donc je lui dis bah merci pour l'info et puis il m'a répondu mais enfin Grégory t'es intelligent c'est faux. Écoutez, j'ai vu l'émission, donc je crois que j'ai bien compris les paroles de vos paroles. Mais bon, c'est drôle, mais enfin bon, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est incompréhensible, mais ça s'est passé comme ça.
Tu l'expliques pas,
Non, je l'explique pas.
Il y a jamais eu de friction, enfin, je sais pas de moments.
Non, puis moi, en plus avec Johnny, normalement, on s'entendait bien. Hein,
ouais. Donc normalement, ouais.
Oui, mais je dis normalement.
Vous avez passé quelques années ensemble.
En tout cas, moi de mon côté, moi, je l'aime beaucoup, mais.
Ouais, parce que vous avez passé quelques années ensemble, là, Dimitri le dit.
Les
années 2000.
C'était un collègue de travail, et puis on s'entendait très bien. Mais c'est pour ça, d'où mon incompréhension, quoi. C'est un peu fou.
Il y a eu deux matchs, Lyon-Dijon, c'était début septembre dernier, et puis Dijon-Lyon, c'était en février, je crois, de cette année 2020-2021. Pendant ces rencontres-là, tu les as pas croisées
J'ai croisé Johnny ici, c'est serré la main, puis voilà.
Ouais, il était je l'avais croisé dans le stade Gaston Gérard. Tu l'as juste serré la main, tu lui as pas parlé plus que ça.
Non.
D'accord. C'était pas le moment, peut-être.
Ouais, déjà, j'avais autre chose à faire, on va dire. Et puis bon, c'est passé. Hein.
C'est passé. Ouais. Bon, en tout cas, t'es heureux aujourd'hui à Dijon.
Mais grave. J'adore cette région, j'adore cette ville. Et en plus, maintenant, on a un centre d'entraînement exceptionnel. Donc, on a tout pour bien travailler.
Bon, on va reparler plus en détail de Dijon dans un instant, de l'équipe de France aussi, de plein de choses. Tout d'abord, un petit peu de musique avec un autre titre que tu écoutes souvent, Greg. C'est. Tu reconnais?
Ah, c'est Justin Bieber.
Justin Bieber,
ouais, j'aime
bien. C'est parti.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
And I see you. Oh. The way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. Hey. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. And days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture.
in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine, and I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. Took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my life back from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
Hop là, et c'était donc Justin Bieber, un autre.
Pour partir en vacances, là.
Bah oui, bah ouais, c'est ça, c'est ambiance, c'est soleil et tout, on est bien, là. Bah, on est bien avec Justin Bieber Pitches, voilà, l'un des titres qui se trouve sur ta playlist, ouais. Greg. Allez, on va maintenant parler de l'équipe de France. Alors, on pourrait parler de ton riche passé également, chez les Bleus, dans les années 2000, notamment. Mais on a choisi aussi de te parler de l'actualité de l'équipe de France d'aujourd'hui, de 2021. Dimitri, une question.
Alors bon, t'as côtoyé l'équipe de France pendant 11 années, 34 sélections quand même, c'est pas n'importe quoi. en ce moment, on a eu Golioris et Steve Mandanda, pardon, qui, on a l'impression qu'ils sont indéboulonnables aux yeux de Didier Deschamps, ce qui peut paraître légitime vu leur performance. Mais on a aussi Mike Maignan qui a signé au Milan AC dernièrement. Est-ce que tu penses que c'est l'occasion de le lancer, de le mettre titulaire maintenant avant la Coupe du Monde 2022?
Franchement, je pense que ça va se faire naturellement. Mike, il vient de faire une année vraiment complète. Avec Lille, il a été très performant, vraiment en place. Et puis on voit que c'est un gardien qui est toujours bien placé, qui sent bien les choses. Et c'est vrai qu'il a pris une nouvelle dimension et il va en prendre une encore avec le Milan AC. Donc très sincèrement, on voit qu'il y a de plus en plus de concurrence. Steve va être en concurrence aussi à Marseille maintenant. Donc je pense que c'est pas une hérésie de dire que Steve va peut-être bientôt passer la main, notamment en équipe de France, quoi. Après, à Marseille, je pense qu'il a encore largement sa place. Mais oui, voilà, quand il y a des joueurs qui se révèlent comme Mike, c'est difficile après de les laisser derrière très longtemps.
Et plus généralement, c'est quoi ton regard sur les gardiens français à l'heure actuelle, actuellement?
Ouais, pour parler d'Hugo, qui est notre capitaine depuis de nombreuses années, je pense que quand on a cette régularité, ça impose un respect énorme. Et je pense qu'Hugo, par rapport à ça, pour moi, la dernière Coupe du Monde, c'est lui qui a été le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Voilà, c'est pas être chauvin, c'est être juste factuel. Je veux dire, il bosse super bien, il fait les arrêts qu'il faut au bon moment. Il a cette régularité aussi. Je pense que si Didier en a fait son capitaine, c'est qu'à côté, il sait aussi faire un travail avec le groupe aussi. C'est un vrai meneur aussi. Donc tout ça, ça demande aussi un investissement énorme. Et on peut pas confier cette mission à un jeune gardien. Donc moi, ça me paraît juste logique, voilà, tout ce qui se passe, et que bah, comme derrière il y a du beau monde qui arrive, il y a une émulation. Je pense qu'à ce poste-là, on est bien garni, quoi.
Il y a des mecs comme Alban Lafont, Ilan Meslier
qui ont besoin encore, je pense, par contre, ces gardiens encore à plus performer, voilà, découvrir aussi le plus haut niveau, parce que quand on joue aussi en Coupe d'Europe, c'est un autre rythme de travail, jouer tous les trois jours plus le niveau international. C'est un autre métier que par rapport à un gardien d'une équipe qui joue que les week-ends.
Ouais.
Tu parlais rapidement de Didier Deschamps. Il y a eu le débat il y a 2-3 semaines. Doit-il rester en poste et attendre 2022?
Je fais partie des pour, oui, bien sûr. Je pense qu'on peut que dire merci. On peut dire qu'il a quand même stabilisé cette équipe de France. Il en a fait un vrai groupe. Et que, ouais, bah, on va dire qu'il s'est trompé sur certaines, peut-être, compos.
Ce système, là, qu'il a mis en place face à la Suisse.
Ouais, mais bon, qu'il le fasse, il s'est pas entêté. C'est là où il s'est pas entêté. Il a corrigé. Donc, il a montré aussi une vraie capacité à changer les choses. pour moi c'est un entraîneur qui a tout, qui a tout, qui a la grinta, qui a la même la chance pour certains. Mais bon, c'est comme on dit, ça se provoque, et je pense que ça, il est, enfin, pour moi, c'est vraiment un sélectionneur qui est au top.
Ouais. Parallèlement, il y a Zidane qui est dans les starting blocks pour prendre. Alors, tout le monde dit que c'est la suite logique,
bien
de la
sûr,
cuisine,
ouais,
Zidane
sûr.
Prenne la suite de Didier Deschamps, fin 2022, début 2023. Toi, d'ailleurs, t'as joué avec lui, avec Zidane en équipe de France, pas en club. Hein. T'es encore en contact avec lui?
Ça nous est arrivé de savoir pour parler de choses et d'autres, mais c'est vrai que Ziz, moi, ça aura toujours été
Ziz,
ma fierté. Mais tu vois, c'est un mec, il est extraordinaire, mais sa famille aussi est extraordinaire, parce que je l'ai connu aussi du coup un peu à Madrid, mais c'est un mec à part. Moi, ça a toujours été ma fierté de dire j'ai joué avec Ziz, et que quand on te demande qui est le meilleur joueur et qui t'a joué, Zinedine Zidane, hein, ça c'est clair, c'était incroyable. Et petite anecdote, c'est que moi, quand je suis arrivé en équipe de France, vous imaginez le marquage qu'il avait à la culotte de la part de chaque équipe. Et donc, au départ, je ne sais pas trop lui donner. Il est venu me voir à la mi-temps, comme ça. Il m'a rassuré, il me dit, Greg, mais donne-moi le ballon. J'ai dit, ouais, mais t'as toujours un mec.
Mais avec cette voix-là, là.
Voilà. Et je lui dis, mais si, t'as toujours quelqu'un aux fesses. Il me dit, t'inquiète pas, ça c'est. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas. Mais vraiment, tu vois. T'inquiète pas, c'est pas grave. Et c'est vrai que
rassurant,
sur 10 ballons, les 9, ils mystifiaient le mec. Enfin voilà. Et après, s'il le dixième, il le perdait, c'était de ma faute, il fallait pas lui donner, quoi.
Voilà. Ça marche comme ça. Ouais.
C'est tout. C'est pour ça, t'inquiète pas. Mais c'était la classe, franchement, c'était la classe. Et je crois que pendant un moment, c'était même notre jeu avec les gardiens de, quoi qu'il arrive, de lui relancer le ballon, tu lui envoyais un cube, ils te le rendaient rond, quoi. C'est magnifique.
Il le mettre dans la difficulté.
Quelle classe. Il avait, je sais pas, et puis, cette capacité à toujours, et puis avec n'importe quelle partie du corps, hein, je veux dire, il te l'a contrôlé comme il faut. Il était toujours dans le temps d'après, en fait. Le contrôle, il était fait.
Ouais.
Donc, il voyait les choses avant, et comme il enchaînait facilement, il avait toujours ce temps d'avance. Donc, comme il disait, de façon rassurante, t'inquiète pas.
Grand souvenir, en tout cas. Allez, Greg, avant de terminer cette interview, dernière coupure musicale avec encore un titre qui se trouve sur ta playlist.
Je vais pas te dire le nom, mais c'est du Love, là.
Ouais, c'est ça.
You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I'll to stick to another man, a man that surely deserves me, but I think you do. So I cry and I pray and I beg for you to love me, love me. Say that you love me. Fool me, fool me. Go on and fool me. Love me, love me. Pretend that you love me. Leave me, leave me. Just say that you need me. You love me, say that you love me. Fool me, fool me.
Love Full Two Color sur Castis FM, c'est bon, ça grille.
Non, mais ça, ça c'est quand tu franchis un peu, un peu plus les caps au niveau des degrés d'alcool et de la soirée, tu vois. Tu pars et t'es bien.
Bonne ambiance.
T'es bien, ouais, t'es trop bien.
Bonne ambiance. Souvent après les matchs, au stade Gaston Gérard, il y a la salle de conf qui jouxte la salle, le vestiaire visiteur, et on entend les joueurs qui mettent de la musique à fond.
Bon, ouais, beaucoup.
Bon, c'est souvent du rap. Hein.
Ouais, malheureusement.
Malheureusement, c'est pas trop. C'est pas trop Love Full Two Color.
C'est vrai.
Ça arrive des fois pendant les entraînements ou après.
Ça m'est arrivé de faire des séances musicales.
Musicales, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais.
Pour un peu m'a créé une ambiance aussi. Puis j'ai quelques musiques comme ça, mais ça vient du CrossFit en fait. Il y a des musiques spéciales où tu peux te faire quelques burpees ou quelques squats.
Ouais, c'est entraînant.
Et c'est pas mal. Ouais.
Ok. C'est pas toutes les séances. Bon, c'est.
Non. C'est de temps en temps, tu me vois arriver avec ma caisse et puis
on. Tu vas dire qu'est-ce qu'il fait, Greg.
Et on envoie, voilà, du pizza alter, et puis c'est bien. Voilà, j'aime bien.
Ok. Grégory Coupé, on approche la fin de cette interview. On voulait maintenant parler un petit peu de ta vie plus perso. Ça fait un an maintenant que tu habites à Dijon. Bon, climat un petit peu rude l'hiver, hein. Voilà. Il y a beaucoup de brouillard. Il fait très chaud l'été, mais bon, ça va.
Pas me raconter. Je viens pas que de Madrid. Hein, je viens du Puy-en-Velay aussi.
Ouais,
donc, je peux dire qu'à l'époque, dans ma jeunesse, il faisait beaucoup plus froid que ça. Donc ça va.
C'est vrai. Bon, ça va. Non, tu t'es bien, t'es bien acclimaté.
Exactement.
T'es bien installé. T'habites dans quel coin de Dijon?
Plein centre-ville.
Ouais.
Je suis vraiment en plein centre-ville, donc. Bah voilà, c'est super bien. Alors je découvre un peu plus la ville maintenant puisqu'elle est ouverte, on va dire.
Malheureusement,
il y a des magasins.
Ouais, t'es arrivé en juillet 2020, bon, c'était ouvert et ça a vite refermé malheureusement
incroyable.
Avec le deuxième confinement.
Incroyable. Non, puis c'est vrai que l'atmosphère est vachement agréable, ces rues piétonnes, c'est quand même vachement bien fait. On m'a dit aussi que c'était pas très vieux ça, tous ces changements. Mais félicitations au maire parce que c'est une ville très très agréable à évoluer dedans et je trouve les gens adorables.
J'ai un ami à moi qui te croise souvent rue de la Liberté où tu vas en direction la place Grangier chercher ta voiture, je crois.
Exactement. Ouais, voilà. Exactement.
Tu te caches derrière ton masque.
Non, je mets un masque comme tout le monde.
Oui. Est-ce que t'as, alors tu connaissais déjà du monde ici au club, il y a Eric Carrière aussi.
Bien sûr.
Qui t'avait joué à Lyon dans les années 2000. Il habite à Day, je crois.
Ouais. Et puis il fait un beau métier.
Ouais.
Je parle pas de celui de consultant.
De consultant, non, tu parles de restaurateur
surtout caviste, voilà. C'est caviste, ouais, c'est pas restaurateur, c'est caviste.
Cave Carrière, rue des Scoupiers.
Voilà, il a des produits juste magnifiques, donc, moi je me suis bien servi de lui aussi pour connaître un peu mieux la région.
Ouais, t'es amateur de vin?
Mais grave, non, puis franchement ici, là je suis en train de tomber le cul par terre. C'est assez extraordinaire, les bons flacons qui existent ici. Et comme je dis, les gens sont super gentils, donc c'est un plaisir.
Entre les plats que tu as dans les bouchons lyonnais et la cuisine bourguignonne, ton cœur balance ou t'aimes bien les deux?
Franchement, je m'adapte à tout. À une table, je suis facile à faire plaisir.
On le disait, malheureusement, t'es arrivé pendant cette période de Covid. Du coup, il y a beaucoup de restos, de bars qui étaient fermés. Est-ce qu'il y a, ça a commencé à rouvrir quand même depuis plusieurs semaines à présent. Est-ce qu'il y a des endroits où t'as pris l'habitude d'aller, des bonnes adresses?
Le BHV, puisque c'est pas très loin de chez moi. Ouais. C'est chez un copain. Il y a le bureau aussi.
Le bureau Place de la République.
Que j'adore. C'est magnifique. Et c'est un copain aussi. Donc voilà, il y a pas mal de petits endroits comme ça. Et surtout, tous ces petits restos qu'on n'arrête pas de faire avec ma femme, c'est un vrai plaisir.
Ouais. Je parlais d'Eric Carrière. Lui, il joue souvent au futsal, je crois, à Saint-Apollinaire, notamment le jeudi sport. Je sais pas quel jour précisément. Mais
alors de moins en moins parce qu'il vieillit, mon gazier.
Ouais. C'est plus compliqué.
Il a quelques tensions au niveau des mollets.
Ah, et surtout.
C'est terrible, c'est terrible. Ouais. C'est moche de vieillir, je vous le dis.
Ouais, mais il est parce que toi t'es de 72, c'est ça. Lui, il est.
Il doit être de 74, je crois.
Il est un petit peu plus jeune.
Ouais.
Mais il vieillit plus vite que toi.
Bien sûr. Il y a pas photo.
Mais vous jouez souvent au futsal ensemble?
Ces derniers temps, non, on l'a pas trop fait. On l'avait fait une fois, mais il était pas venu. Mais ici, avec le staff aussi, on joue pas mal. Bah maintenant, on a des super conditions aussi, donc on a un paddle au centre d'entraînement et un futsal. Donc je crois que c'est pour bientôt là. Ça se met en place.
Ok. Grégory, merci beaucoup pour être venu ici chez Castis FM. Plaisir partagé.
Je vous écoute.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Plein de bonheur, plein de réussite pour cette saison.
Gagner des matchs. Gagner des matchs. Parce que là, j'étais sevré quand même l'année dernière. Ouais. C'était vraiment dur. Donc, gagner des matchs. Voilà. De n'importe quelle manière, mais les gagner.
rendez-vous pour le premier, en tout cas.
C'est lundi,
20h45.
On compte sur vous.
Ok. Merci à toi. Castis FM.